Notre invité est le jeune auteur roman Quentin Mouron. Il sort Vesoul le 7 janvier 2015, son 6e roman. Et Claudinga Barbet vient de nous rejoindre.
Non, c'est Odile. Je suis bibliothécaire et je suis là pour vous présenter à toutes et à tous, chères lectrices, chers lecteurs, ce matin, ce livre de Quentin Mouron, Vesoul, le 7 janvier 2015, dans le cadre de nos rencontres culturelles des lettres romandes. Donc je profite d'être à l'antenne déjà pour vous dire que notre prochaine rencontre aura lieu le 14 juin, donc la journée de la femme, et que le thème sera la place de la femme dans la littérature romande. Je vous présenterai à cette occasion l'ouvrage de Yann Moix, La vieille peau, un très joli livre sur les bols chantants tibétains. Alors venez nombreux, ça vaut la peine, puisque l'apéritif sera servi par nos collègues de la Bibliothèque des Aveugles. Mais revenons à présent sur notre rencontre d'aujourd'hui, Quentin Mouron. Alors, quelques mots sur l'auteur d'abord. Quentin Mouron est un jeune écrivain originaire de Lausanne. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas le voir, je vous le décris, c'est un jeune homme beau et lettré. Il a passé une partie de son enfance en Autarcie, qui est une région du Canada, dans une cabane en Rondin. Et en 2006, ses parents, Didier Mouron, qui est artiste peintre, et sa maman Isabelle, qui est institutrice, décident de rentrer du Canada afin que Quentin puisse effectuer, pour notre plus grand plaisir, ses années de gymnase à Lausanne. Donc c'est un adolescent solitaire et qui aime la lecture. Il est plein de paradoxes. Il aime Frédéric Dard, mais également Racine. Il se décrit lui-même comme un cynique nietzschéen plutôt que comme un cynique schopenhauerien. C'est difficile à dire. C'est des mots très difficiles à écrire comme Shakespeare ou whisky. Alors à prononcer. Très jeune, Quentin Mouron est tourmenté par l'idée du masque opposé à l'idée de sincérité. Il aimerait savoir non seulement s'il ment aux autres, mais également s'il se ment à lui-même. Et c'est cette recherche qui le pousse entre autres à se lancer dans l'écriture. En 2011, il écrit Au point d'effusion des égouts. Donc c'est le titre du livre, en vrai il écrit dans son bureau j'imagine. Puis suivent 4 autres livres et cette année il publie ce livre controversé, Vesoul, le 7 janvier 2015, alors qu'il n'a pas encore tout à fait 30 ans. Bravo Quentin. Alors naturellement je l'ai lu pour vous, et malgré ce qu'en disent certains critiques en prétendant par exemple qu'il s'agit, je cite, d'une fable foutraque et picaresque, volontiers fécale et libidineuse, et que Quentin Mouron macule de vulgaire une langue d'ambition littéraire, eh bien moi j'ai trouvé personnellement que c'était un récit tout à fait poignant, même s'il n'y va pas avec le dos de la main morte. Alors comme le dit son éditeur Olivier Moratel, que je salue au passage, cet ouvrage c'est du cyanure qu'on a plaisir à prendre. Alors la fable en est toute simple, c'est l'histoire d'un jeune homme, beau et lettré, qui fuit l'horreur de son pays. Alors quelle est cette horreur? C'est un commandement de payer des impôts et une convocation au service civil. C'est donc un livre sur l'exil. Il fuit dans des conditions terribles puisqu'il est pris en stop par le conducteur d'une Audi qui deviendra son mentor lors de ce séjour à Vesoul. Ce pauvre jeune homme réfugié, beau et lettré, est entraîné dans cette petite ville de province où il est confronté à différents groupuscules conscientisés de la pire espèce. Il y rencontre des LGBT, des poètes, des nazis, des siamoises, un pasteur, le Hezbollah, des véganes et surtout un personnage phare, une prostituée, une certaine Vagina, qui se définit ainsi de façon très poétique, page 47, je cite, « Je suis une pute, l'avaleuse de Vesoul, venez me remplir, abouler la bitos, chargez-moi par derrière, motoculté Bibi. Oh. » Et qui chante une très jolie ode à la page 74, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire, vivant, je vous emmerde, mort, je vous encule, j'ai déterré ta mère, je l'ai baisée et je l'ai enterrée une seconde fois. Donc, comme vous le constatez, le vocabulaire est très recherché, la syntaxe légèrement heurtée et le style, ma foi, très, très original. Plus on avance dans l'ouvrage, plus les propos s'affinent. Ainsi, à la page 95, Quentin Mouron nous décrit une scène dans un café où on le force à boire de l'alcool, une scène de réaction populaire à l'annonce du terrible attentat de Charlie Hebdo. C'est très émouvant, vous allez voir, je cite, le rouquin se releva, virgule, fier, point. Un paix outrancier, virgule, farouche, virgule, lâché à la hauteur de notre nez, virgule, lui arracha un éclat de rire, point. Je vous invite à relever la finesse de la ponctuation dans cette citation. Le suspense de ce livre est insoutenable. Toute cette faune grouillante, ça fait un peu penser au Jurassic Park de Michael Crichton. On se demande jusqu'à la dernière ligne si notre vélociraptor beau et lettré va s'en sortir. D'ailleurs, je pense que les maisons de production vont s'arracher son histoire pour l'adapter au cinéma. Surtout le chapitre intitulé « Le Festival International du Foutre ». Alors, bravo Quentin. Avec ce livre, vous avez rempli votre mandat d'artiste, c'est-à-dire vivre toutes ces choses terribles et les écrire afin que nous, lecteurs, nous puissions les déguster tranquillement dans notre fauteuil. Merci beaucoup.
Bravo, Claudine. Odile, pardon.
Les beaux parleurs sur la première.
Quentin Mouron, est-ce que, comme semble le dire Odile, votre vie est aussi glauque que ce que vous écrivez ?
Mais je crois pas que c'est glauque, c'est au contraire rigolo, c'est rablaisien. Alors on a un peu perdu Rabelais en cours de route dans notre histoire littéraire, on préfère les gens un petit peu plus compassés.
Non, il y a Platon et Pascal, que je connais bien personnellement.
C'est des copains ? Oui, ils viennent à la bibliothèque très régulièrement, mais c'est vrai qu'on a perdu un peu ce sens du gras, ce sens du drôle, mais c'est pas grave, on le retrouvera peut-être grâce à moi, peut-être grâce à d'autres, en tout cas je l'espère.
Vous trouvez qu'il y a trop d'hygiénisme dans notre littérature et vous préférez quand on dit les choses directement, c'est
non,
ça ?
Non, c'est pas du tout ça. C'est simplement que le mot livre drôle, on me dit mais c'est un oxymore, livre drôle, ça n'existe pas. Il faut qu'un livre soit dramatique et si possible un petit peu misérabiliste parce qu'il faut quand même faire sentir un peu toute cette douleur qu'on ne vit pas soi-même. Et donc, forcément, je comprends cette orientation. Ça permet d'avoir des prix littéraires et des bourses et des subventions. Bon, moi, j'ai pas besoin de ça parce que, non pas parce que je suis riche, mais parce que j'ai appris à vivre de peu. Malheureusement, c'est pas ça qui m'intéresse dans la littérature. Moi, j'aime bien ce côté pré-19e siècle, mais on peut encore y intégrer Balzac, parce que Balzac écrit, on l'oublie souvent. Balzac, c'est la comédie humaine, mais c'est aussi des contes drôlatiques, c'est-à-dire ces contes écrits dans une espèce d'ancien français qui singe avec brio Rabelais, qui, selon l'auteur, d'ailleurs, dépassait Rabelais. C'était un deuxième Rabelais bien mieux, puisque c'était Balzac et que Balzac pensait qu'il était mieux que tout le monde, et il avait sans doute raison. Par conséquent, moi, je suis aussi pour cette littérature d'avant le roman réaliste du 19e siècle, sans forcément, d'ailleurs, bouder le roman réaliste.
Pourquoi, dans un livre drôle, dans un roman qui se veut en partie humoristique, vous choisissez Charlie Hebdo comme décor, les attentats de Charlie Hebdo ?
C'est venu un peu après coup, c'était vraiment au début, j'ai commencé à écrire ce livre comme une sorte de fuite, non pas du service civil, là c'était une petite erreur, de la protection civile qui est bien plus radicale.
Pardon. Ah oui.
On parlait des mosquées tout à l'heure, mais là si on parle de radicalisation,
la protection civile, orange
et kaki, parce qu'il fallait bien sûr deux couleurs qui ne s'accordent pas, sinon on aurait pu être beau dans nos uniformes, mais ça aurait été un problème déjà, un petit problème presque fédéral. Donc...
Pourquoi les attentats de Charlie Hebdo et non pas pourquoi la protection civile ?
Les attentats de Charlie Hebdo parce qu'au fond ça a polarisé, je pense, deux choses différentes. D'une part, notre bonne conscience et notre conscience aussi de, comment dirais-je, de notre conscience un peu libertaire au sens où on a le droit de s'exprimer. C'était ce qu'on a dit après les attentats de Charlie Hebdo, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et puis on découvrait une sorte de contre-monde, d'arrière-monde, qui estimait qu'au contraire, on n'avait pas le droit de s'exprimer et que même si on s'exprimait, il fallait être passé par les armes. Et c'est vraiment ce qui a marqué, je pense, l'opinion dans ces attentats. Attentats assez discutés, puisque bien sûr que tout le monde était Charlie, mais qu'en même temps, c'est un des attentats où on a le plus vu de mouvements de réjouissance sur les réseaux sociaux. Un mouvement où on s'est dit, bah, tiens, c'est super, ils sont enfin morts. Enfin, c'était quelque chose de réel. Il y a eu quelques articles, vous pourrez retrouver d'ailleurs, je ne suis pas en train d'affabuler, sur cette question-là, beaucoup plus que par exemple les attentats tragiques du 13 novembre, du Bataclan, qui ont beaucoup plus, qui étaient, disons, ou qui a horrifié tout le monde. Tandis qu'ici, c'est vrai que c'était un attentat étonnamment... dont la réception était diverse. À la fois, on a fait venir tous les dictateurs du monde à Paris pour une grande marche républicaine, ce qui était assez amusant, parce que c'était peut-être de l'humour politique, j'en sais rien. Mais enfin, ensuite, on a bien sûr, tout le monde était Charlie, tout le monde préférait la plume à la Kalachnikov, tout le monde, ce qui est évident. Mais en même temps, il y a eu aussi, ces attentats ont été célébrés un peu partout
dans
le monde.
Tout le monde n'était pas Charlie,
également,
c'est ce que vous voulez dire.
Également en Europe, bien sûr, parce que pas seulement d'ailleurs par des intégristes... salafistes ou que sais-je, mais aussi par des gens qui, depuis longtemps, parce qu'au fond, le fonds de commerce de Charlie Hebdo, c'est pas tellement l'islam, comme on le dit parfois, c'était plutôt les catholiques, les bonnes surprises en levrette, enfin tout ça. Et donc, il y avait une sorte de réjouissance secrète, où bien sûr, on regrettait les morts, mais en même temps, on se disait qu'ils avaient quand même... c'était peut-être un peu mérité.
Et, très bien.
Et ça s'est entendu, d'ailleurs, même dans des discours, le discours du pape, par exemple, la réaction du pape, jusqu'à certains de nos personnalités politiques, que ce soit en Suisse ou en France, ont finalement accueilli ça avec un peu... Je veux pas dire qu'ils ont pas senti le tragique de la chose, mais enfin, avec une espèce de relativisme mondain.
Très bien. On va faire un tour de table. Vous avez lu Quentin Mouron, Gabriel Binder, vu que vous avez le livre ouvert et la bouche ouverte. On y va.
Ah, oui. Alors, j'ai lu ce livre pendant les vacances de Noël. L'auteur se revendique de cette littérature picaresque. Il cite lui-même Cervantes. Bon, c'est clair, si vous prenez pour Cervantes, ça serait pas votre sixième livre, ça serait la fin du troisième chapitre, hein, parce que c'est pas Don Quichotte, il fait pas 100 pages, mais c'est 15 ans d'écriture, ou je sais plus.
Et bon. C'est pas tout à fait picaresque.
Oui. Et vous dites, j'étais résolument du côté de Cervantes, donc ce héros, sauf qu'ici, le deus ex machina, en fait, du héros picaresque, c'est qu'en fait, c'est le hasard. Hein. Donc il se promène... Les trains,
il a de la chance. Hein.
Les trains sont en grève, donc il fait du pouce. Par hasard, il tombe sur quelqu'un qui va à Vesoul. Par hasard, à Vesoul, il y a une espèce de fête du slip. Et le même jour, une espèce de les livres sur le quai, sauf qu'il n'y a pas de quai à Vesoul, mais on s'en fiche. Et puis, en plus, tombent les attentats. Et voilà. Alors, donc vous avez dans ce roman cette petite le premier parcours jusqu'à Vesoul où c'est le serviteur qui demande d'être adoubé par son maître, ce qui est l'inverse de chez Cervantes, mais c'est pas grave. Et puis après il y a ces aventures où en fait les héros ne font rien que de regarder et d'être un peu voyeurs, donc ils n'agissent pas. Et ensuite il y a les attentats. Et il y a un truc assez marrant chez Quentin Mouron, c'est qu'au moment de l'attentat, lui-même change complètement et commence à citer des auteurs. Donc il y a tout à coup une espèce d'essai. Alors que le livre était puissant, c'est si, au moment des attentats, il poursuivait dans cette veine lyrique, délirante, héroïque. Mais on voit qu'il a été lui-même un peu tétanisé par les attentats. Donc il doit faire, au moment des attentats, beaucoup d'allégeance.
Le bouquin est plus poli pendant les attentats, c'est ce
voilà.
que vous voulez dire.
Et en fait, il fait allégeance au réel. On l'entend tout de suite, il fait allégeance au réel. Et il se trouve qu'en ce moment, au moment où je lisais Vesoul, 7 janvier 2015, je lisais aussi Le Lambeau de Philippe Lançon, qui a commencé le 7 janvier 2015, puisque Philippe Lançon, journaliste, critique littéraire, s'est ramassé une balle de calage Kalachnikov dans la gueule, et il écrit et il décrit notamment les attentats, et il dit l'attentat, donc il a vu tomber ses plus proches amis, quoi. Il dit l'attentat, c'est le truc le plus drôle que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Et puis il a un rapport à l'attentat complètement dégagé, mais il dit surtout, et ça remet un peu Quentin Mouron à sa place, il dit « Moi, je ne supporte plus les discours. Ce que je ne supporte pas, ce n'est pas les discours pro-musulmans, anti-musulmans, pro-attentats, anti-attentats. Ce que je ne supporte plus, c'est le discours. » Et voilà. Donc, la faiblesse...
On va faire réagir Quentin Mouron. Quentin.
Bon, je m'en fous un peu de ce que Philippe Lançon ne supporte plus, c'est son problème. Je pense que ça a bien sûr été un peu compliqué pour lui, comme pour beaucoup de survivants d'attentats, pas seulement d'ailleurs des attentats de Charlie Hebdo. Donc c'est pas sa parole qui, à mon avis, fait foi. D'autant plus, j'ai pas fini son livre, je le finirai sans doute, mais ça m'intéresse pas particulièrement. Donc quand j'écris moi-même, je n'écris pas sous l'ombre ou sous la cuisse ou sous autre chose de Philippe Lançon, mais bien par rapport à ce que je ressens. Mais je comprends bien sûr le moment où ça tourne, hein, et c'est tout à fait juste, c'est simplement aussi parce qu'il y a eu des morts et que, bien sûr, je n'y suis pas insensible et que le narrateur n'y est pas insensible non plus, parce que finalement, il faut dissocier quand même un tout petit peu le narrateur de l'auteur. C'est ce que j'apprends j'ai quelques élèves, pas beaucoup, Dieu merci, mais c'est ce que je leur apprends. Et là, je pense qu'en effet, c'est une sorte d'inflexion dans le roman, c'est une sorte de chose qui change, de réalité aussi qui change, de densification peut-être de la réalité, parce qu'on était dans une sorte de réalité ou d'abstraction en quelque sorte avec des festivals d'hiver, comme vous l'avez très justement relevé, et tout d'un coup il y a un élément qui n'est pas un élément inventé, qui n'est pas un élément de fiction, mais qui est un élément de la réalité. Donc il s'agit aussi de l'accueillir dans le roman et de lui donner sa juste place.
Mais là, vous êtes presque dans le domaine de l'essai. Donc je me suis dit, ah, c'est un peu dommage, c'est qu'il y a une plume.
Vous auriez aimé du vulgaire dans les attentats de Charlie Hebdo décrits par Quentin Mouron, c'est ça.
Je trouve qu'il a une très belle plume, il y a des très belles formulations et il a un regard assez intéressant dans un essai sur l'attentat et l'après-attentat. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il tente de mêler tout à coup un essai dans le roman et ça dévalorise le roman et ça dévalorise l'essai. Voilà.
Très bien, c'est votre avis. Micheline Calmirez, j'aimerais entendre votre avis sur Vesoul, le 7 janvier 2015, le livre de Quentin Mouron.
D'abord, moi, je voudrais vous féliciter d'être arrivé au bout de l'écriture d'un livre, parce que c'est pas chose facile.
Merci.
C'est un gros travail. On se rend peut-être pas compte ce que ça demande comme travail. Je trouve pas votre livre très drôle. Je trouve pas que ce soit un livre drôle. Je trouve que c'est vous caricaturez et décrivez toute une série de groupes, les féministes, les masculinistes, les nazions, enfin, etc.
Tous les
istes. Que sais-je encore, tous les istes, les Hezbollah, enfin, et que sais-je encore. Et moi, je trouve que ça donne une vision assez pessimiste de notre monde, même parfois dégradante. Et j'aurais voulu vous demander. Et puis vous avez un langage extrêmement cru. Et moi, je fais partie de la génération de ceux qui étaient politiquement corrects, n'est-ce pas, ouverts, tolérants. On ne dit pas certaines choses.
Un mot sur deux, vous l'avez jamais dit, je suis sûr. En tout cas, pas en public.
On a des avis mesurés, voilà. Oui. Et puis vous-même, avec d'autres, hein, c'est la tendance aujourd'hui. On est cru. Houellebecq, c'est la même chose. Hein, je veux dire, c'est un langage très 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 direct, très cru. Moi, j'ai l'impression que le politiquement correct a été contrebalancé ou contré par le politiquement incorrect, mais qu'aujourd'hui, le politiquement incorrect est devenu correct. Et c'est-à-dire que vous êtes dans la grande tendance du politiquement correct avec votre
politiquement incorrect. Oui.
Non, du politiquement correct avec votre caricature. Alors, ça devient politiquement correct.
D'accord.
Et ça, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez, et surtout savoir votre vision des choses en réalité, et en particulier votre vision de la femme, parce que je trouve alors la figure des femmes dans votre livre est catastrophique.
Quentin Mouron, sur toutes ces réactions de Micheline Calmiret, peut-être d'abord sur le politiquement incorrect qui devient le nouveau cool.
C'est bien, je voulais commencer par là. Je crois que je suis d'accord avec vous, le politiquement incorrect est devenu un politiquement correct. Mais au fond, c'est normal, c'est tous les mouvements de réaction, en quelque sorte, deviennent finalement une sorte de nouveau trend et un nouveau politiquement correct. C'était le cas d'ailleurs, je parlais avant du 19e siècle, permettez-moi d'y revenir, quand Maupassant, tout à coup, écrit un article assez lumineux qui s'appelle la Bafonmanie, dit, au fond, on n'a pas parlé des pauvres pendant longtemps, on n'avait pas le droit, maintenant on ne fait plus qu'en parler, c'est peut-être finalement un autre cliché, en quelque sorte, qu'il s'agira d'expurger. Je suis d'accord avec vous, mais je me permettrai de faire remarquer que, à côté de ces quelques éléments un petit peu sensationnels, un petit peu érotiques, un petit peu fécaux qui ont été cités tout à l'heure, sous ça voisine aussi avec un niveau de langue un peu plus recherché aussi, dans une narration au passé simple, qui ne boude pas des subjonctifs imparfaits, qui ne boude pas aussi certains mots qui appartiennent plutôt au tissu de la grande bourgeoisie élégante et cultivée et qui ne parle pas de ces choses-là. Donc, je pense que là,
vous pouvez mettre du subjonctif et du caca dans la même phrase.
Bien
c'est ce que vous
sûr,
dites.
Absolument, oui. Absolument. Ensuite, je pense pas, je vous rassure que c'est une question de génération. Ma grand-mère, qui est plus âgée que vous, vieille dame catholique, adore ce genre de choses. C'était une grande fan de San Antonio. Alors, elle adore tout ce qui est.
Vous allez pas mettre votre grand-maman en référence quand même.
Bien sûr que je vais citer ma grand-maman. D'accord. J'ai cité Balzac et Rabelais. Maintenant, je cite ma grand-mère.
C'est son côté Orelsan, en fait.
C'est toujours pour elle qu'on écrit.
Moi, je connais pas ces gens-là. Moi, je suis resté à Rabelais.
Sur le cynisme, Quentin Mouron. Qu'en pense votre grand-mère?
Oh, bien sûr, peut-être que ça la navre un peu, mais je crois pas être particulièrement cynique. C'est vrai qu'il y a une vision du monde qui est particulièrement, où tout est relatif, où tout est... Mais il faut bien voir encore une fois que ce livre est écrit à la première personne. Il n'est pas écrit à la troisième personne. C'est pas un livre omniscient. C'est pas non plus un essai. C'est pas un essai de sociologie ou de philosophie masqué, comme on a peut-être pu l'insinuer tout à l'heure. C'est vraiment un roman. Dans un espace romanesque, on fait une hypothèse de lecture. On crée un narrateur qui n'est pas complètement moi. Là aussi, malgré ce qui a pu être insinué, je ne me suis pas fait sodomiser en Australie. Je suis jamais allé
hélas,
en Australie.
Hélas.
Je suis malheureusement pas allé en Australie, mais j'espère que
bien enchaîné,
j'irai un
s'il
jour.
Vous plaît. Oui.
Par conséquent.
Mais c'est pas trop tard.
Oui, si s'il vous plaît, Gabriel, vous lui ferez des propositions après.
Oui.
Après l'émission, c'est mieux parce qu'il paraît qu'on est filmé.
Vous irez tous les deux en voyage en Australie.
Voilà.
Quentin.
Vous pouvez déjà me suivre aux toilettes tout à l'heure, je devrais y aller bientôt.
Stop, mon Dieu.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas non plus, et c'est pas une manière de me cacher, mais c'est simplement que c'est une hypothèse aussi de lecture. C'est un type qui, faut pas oublier qu'il est fasciné par un cadre du Crédit Suisse, le narrateur, ce qui est pas mon cas.
Oui.
Donc, il faut bien voir déjà qu'il se place dans un certain avilissement.
Non, mais on vous dit pas que vous êtes le narrateur. Par contre, on vous dit que votre livre montre une vision très pessimiste, cynique de la société. Et ça, vous êtes d'accord avec cette remarque de Micheline Calmiret?
Alors, ça, je suis d'accord. Par contre, pour la question des femmes, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que, peut-être que les femmes sont certaines femmes, en tout cas dans le roman, sont décrites de manière dégradée, mais montrez-moi que les hommes sont valorisés. J'ai pas l'impression que les hommes sont particulièrement valorisés dans ce livre. On a tour à tour un espèce de cadre du Crédit Suisse complètement idiot. On a ensuite deux trois abrutis qui se baladent dans un salon du livre, qui sont des espèces de poètes minables. On a ensuite quelques types de un pasteur complètement maniaque qui cite Malebranche en se masturbant. Enfin, j'ai pas l'impression que. Je pense que pour montrer que une femme est dévalorisée dans un livre, il faut aussi montrer qu'au contraire l'homme est valorisé. Alors là, j'ai pas l'impression que l'homme est valorisé particulièrement, ou alors que la femme est plus dévalorisée que l'homme. Je crois
tout
que
le monde en prend pour son grade.
Il y a qu'une figure féminine en fait dans votre livre. Et puis cette figure féminine,
c'est la prostituée.
C'est la. Oui. Bah, c'est le cliché. Les femmes sont soit mères, soit putes. Et dans votre livre, elles sont putes. Point.
Oui, mais dans mon précédent livre, c'était une femme absolument magnifique, oui, et personne ne l'a relevé. On a trouvé ça kitsch. Donc vous voyez, ça dépend. Il fallait m'inviter aussi pour le précédent. Je pense qu'il faut quand même juger.
On vous invitera pour tous les suivants, c'est promis. Marie Fourquet.
Oui, pour la question de la femme, comme ça, brièvement. Moi, effectivement, j'ai pas trouvé que la femme était dévalorisée dans le bouquin, puisque vous lui donnez de la libido et de l'humour, et on vous en remercie, parce que c'est quand même souvent ce qui manque dans les figures féminines. Deux choses qui... D'abord, pour encourager nos auditeurs curieux d'aller acheter le roman de Quentin Mouraud. La première, c'est que quand tout d'un coup Claudinga a lu des extraits, pour la première fois j'ai vu Jonas Schneider rougir, clairement, donc c'est un bouquin qui suscite de l'émotion, il me semble. Et la deuxième chose, moi j'ai fait une erreur en lisant votre livre, je l'ai lu en deux temps en fait, et j'ai profondément regretté à cause de effectivement cette envolée de cette épopée de ces personnages. Donc j'encourage les auditeurs, s'ils achètent le livre, effectivement de réserver assez d'espace dans leur temporalité pour le lire en une seule fois, pour justement comprendre l'arrivée avec les attentats de Charlie Hebdo et puis l'intrusion de la réalité, parce que moi du coup j'ai eu du mal à le reprendre en fait. C'est-à-dire que j'ai eu une première lecture, une première étape très jouissive, je trouve ça extrêmement bien écrit, drôle.
Et après vous ne l'avez pas retrouvé dans votre appartement, bordel.
Et après je ne retrouvais plus ce bouquin, c'est juste. Et puis après j'ai eu du mal à retourner dedans, j'ai eu du mal à re-rentrer dans le roman, et ça je pense que c'est intéressant aussi quel type de lecteur nous sommes aujourd'hui, quel espace on donne à la lecture, et j'ai profondément regretté. Autre chose, je ne suis pas d'accord avec ce que disait Gabriel par rapport à l'essai. C'est vrai que vous êtes très lettré, très référencé, comme dirait Claudinga, très beau. Mais j'ai trouvé que c'était une variation autour du roman picaresque qu'on peut retrouver chez Virginie Despentes avec son Vernon Subutex. Finalement, on a ce personnage complètement loser qui va suivre des aventures, et là aussi une langue qui peut être considérée
comme crue,
et aussi une vision du monde un petit peu désillusionnée. Moi je préfère l'ironie que le cynisme. Je vous ferai pas le procès du cynisme. Je pense qu'il a de la dérision, énormément d'ironie, et puis voilà, je pense que vous faites partie, quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des auteurs talentueux de demain pour la Suisse. C'est vrai, il y a une vraie qualité d'écriture rarement vue ces temps.
Quentin Mouron, merci.
Merci tout d'abord, et je pense que le parallèle avec Virginie Despentes était intéressant, parce que c'est aussi une auteure que je lis et que je pratique. Alors j'ai pas lu toute son œuvre encore, mais c'est vrai qu'à mon avis, alors on parlait de Houellebecq, on parle peut-être un peu trop de Houellebecq d'ailleurs.
En fait, j'aime beaucoup Michel Houellebecq, c'est aussi un des auteurs pour moi, mais je trouve pas la comparaison juste. Je pense que malheureusement, on vous compare à Michel Houellebecq pour une histoire de storytelling en fait. C'est-à-dire que quand on voit votre livre, tout d'un coup, j'ai pas pris ici, mais on vous voit en train avec du papier qui brûle. Il y a quelque chose un petit peu comme ça de démoniaque. Vous avez besoin de vendre. Faites ce que vous devez faire.
C'est un livre sur la RTS d'ailleurs. Il faut quand même le noter.
Donc, Despentes me paraît plus juste.
Oui, mais alors Despentes.
Rapidement, Gabriel Binder, il nous reste deux minutes.
Oui, mais alors Despentes plutôt de Baise-moi, où elle était.
Non, de Vernon Subutex, vraiment. Ouais. Alors là, pour le coup.
Vernon Subutex est pas moins cru, hein, malgré le
mais
titre.
Mais non, c'est pas
ambigu,
c'est pas ça.
Plus latin.
C'est que.
Débat de bibliothécaire ce matin. Livres de Virginie Despentes, lequel ressemble plus à celui de Mouron.
On a des héroïnes, des femmes qui sont actives, qui flinguent tout, qui sortent elles-mêmes la Kalachnikov pour exploser des gens dans des boulangeries. Tandis que dans Vernon Subutex, le héros, justement, ce que vous avez dit, c'est un type un peu has-been qui est SDF.
C'est le roman picaresque. Il nous faut un type un peu has-been. C'est un très beau livre aussi pour la question de la masculinité aujourd'hui. J'ai trouvé très intéressant ça. Moi, c'est une question qui m'intéresse. Et là, je trouve qu'on a des personnages masculins qui, effectivement, sont en questionnement, qui sont perdus. Tout d'un coup, effectivement, votre héros va devenir l'esclave de cette espèce
d'un
de cadre.
Masculin,
c'est très intéressant sur ces questions de virilité aujourd'hui.
Très bien. Vesoul, le 7 janvier 2015, c'est le bouquin dont nous parlions. Certains ont aimé, d'autres d'autres pas. Vous pouvez vous faire votre propre avis en l'achetant. C'est un roman publié chez Olivier Moratel, éditeur. Merci beaucoup, Quentin Mouron, d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.
À une prochaine.
Les Beaux-Parleurs, le dimanche sur La Première.